Et c'est le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Sortez vos bitcoins et autres crypto-monnaies. Vente aux enchères aujourd'hui en France du premier SMS de l'histoire de la technologie. Une propriété numérique estimée à 100 000 euros. Le rush de la troisième dose avant Noël. Les grands centres de vaccination ne désemplissent pas avant les fêtes. Dans ce journal, nous irons à Saint-Quentin en Yvelines. Le Vatican ouvre une enquête sur 251 pédophiles présumés dans l'église espagnole. Et puis à quelques jours du nouvel an, le gouvernement durcit la réglementation concernant les mortiers d'artifice, les ventes suspectes désormais signalées au ministère de l'Intérieur.
Et au micro d'Alexandra Ben Saïd, dans 20 minutes, l'un de nos grands réalisateurs, Arnaud Desplechin, son dernier film Tromperie, d'après le roman de Philippe Roth, sera en salle dans une semaine.
France Inter.
Une vente aux enchères un peu particulière aujourd'hui à Neuilly-sur-Seine.
La vente du premier SMS de l'histoire. 15 caractères, espace compris, Merry Christmas. Et ce texto a été envoyé en décembre 1992 par un ingénieur de l'opérateur britannique Vodafone. 30 ans plus tard, ce SMS pourrait se vendre plusieurs centaines de milliers d'euros, sous forme donc de bien numérique unique, en quelque sorte une œuvre dédicacée. Les explications de Sébastien Sabiron.
Quelques notes qui font partie de la bande originale de nos vies, et c'est sans doute grâce à l'ingénieur britannique Neil Papworth, programmeur chez un sous-traitant de Vodafone. Il envoie un joyeux Noël par SMS à son patron un soir de décembre 1992.
À l'époque, il était impossible d'envoyer des messages depuis un téléphone portable. On ne pouvait qu'en recevoir. Donc le premier SMS a en fait été envoyé depuis un clavier d'ordinateur. Le destinataire se trouvait à la fête de Noël de Vodafone.
Deux ans plus tard, Nokia crée le premier téléphone portable avec clavier, et ce n'est qu'en 1997 que le SMS se démocratise. Neil Papworth.
À l'époque, je n'imaginais pas que ça puisse devenir aussi énorme. Au début, les messages textes étaient plutôt réservés aux secrétaires qui devaient écrire à leur patron ou les représentants de commerce qui étaient sur la route.
Technologie innovante, il y a 30 ans, le premier SMS de l'histoire sera vendu aujourd'hui sous forme de NFT, une sorte de certificat numérique d'authenticité et de propriété. Maximilien Agut, responsable développement de la maison de vente aux enchères Agut.
Nous vendons lors de cette vente un cadre numérique qui affiche le protocole qui a permis d'envoyer le premier SMS, et un NFT qui atteste de l'aspect unique de ce SMS.
La mise à prix pour ce texto en 15 caractères est de 100 000 euros. Il pourrait être adjugé pour le double.
Et ajoutons, merci Sébastien Sabiron, que Vodafone reversera le produit de la vente à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et si vous voulez tout savoir, ou en tout cas en savoir davantage sur les NFT, les NFT comme on dit, et les ventes d'œuvres d'art, de tweets, de gifs ou encore de chansons, c'est à retrouver sur franceinter.fr. Le variant Omicron est désormais largement dominant aux États-Unis. Il représente près de 3/4 des nouvelles contaminations. Le président Joe Biden doit prendre la parole ce mardi pour annoncer le retour de certaines restrictions dans le pays face à cette vague hivernale qui s'annonce brutale. Il n'envisage pas de confinement pour le moment, et en attendant, Anthony Fauci, le conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire, redit aux Américains d'aller se faire vacciner. 50 millions de personnes ne sont pas vaccinées aux États-Unis. En France, 51,5 millions de Français ont reçu un schéma vaccinal complet. Plus de 650 000 personnes ont reçu leur troisième dose ces dernières 24 heures et les grands centres de vaccination ont rouvert. Ils ne désemplissent pas, comme à Saint-Quentin-en-Yvelines, un centre connu pour accueillir les vaccinés et les cyclistes qui continuent de s'entraîner tout autour sur les pistes du Vélodrome. C'est le reportage de Mathilde Denis.
Le vaccinodrome a retrouvé son rythme de croisière. Grande majorité de troisième dose pour être bien à jour sur son pass sanitaire, dit Baptiste.
Je suis responsable commercial, donc déplacement, hôtellerie, restauration. Donc sans pass, ça restreint beaucoup le choix.
Beaucoup se posent la question de la différence entre Pfizer et Moderna. Sans avoir le choix, relève Nathalie.
Voilà, la seule chose, c'est que j'avais l'impression que plus de gens avaient des petits symptômes de grippe post-vaccin avec Moderna. Donc j'ai préféré avoir le vaccin au moins 4-5 jours avant Noël, histoire de ne pas être patraque pendant Noël, mais à part ça, ça ne me pose pas de problème.
Jean-Philippe est un peu résigné.
C'était prévu, je crois, depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils disent que c'est un virus qui mute, donc faut s'attendre à ça. Donc il y aura sûrement d'autres surprises, mais bon, on s'adaptera. S'il y a 4 doses, 5 doses, on fera les doses qu'il faudra et puis c'est tout.
Une routine s'installe, constate Eric Alain Junès, le médecin référent.
Que beaucoup nous font la petite plaisanterie, nous disant, bon alors, bientôt pour la quatrième dose. Donc je pense que déjà les gens sont prêts, certains en tout cas sont prêts à l'idée d'un prochain rappel. Mais on n'a pas de questions vraiment de manière systématique sur un prochain rappel. Les gens savent bien que pour l'instant, on n'a pas les données, que donc on peut difficilement leur donner des éléments qu'on n'a pas.
On sent un peu de frénésie avant les fêtes, poursuit le médecin. De la tension aussi avec le nouveau variant Omicron.
Mathilde Dehémy, et on en apprend tous les jours sur Omicron. Face à ce variant, les traitements actuels contre le Covid ne sont plus pertinents. Des résultats inquiétants, selon une étude de l'Institut Pasteur, les anticorps monoclonaux seraient quasi inefficaces contre les formes sévères. On en reparle dans le journal de 8 heures.
C'est la première enquête d'envergure réalisée en Espagne sur un sujet longtemps tabou.
Après 3 ans d'enquête, le quotidien El País a publié un rapport de 385 pages sur 251 pédophiles présumés dans l'église catholique espagnole. Des cas d'abus sexuels commis entre 1943 et 2018. Le rapport a été transmis début décembre au pape François. Marie-Hélène Ballestero.
Dos au mur, l'église espagnole a été contrainte de sortir de son silence. Dimanche dernier, la conférence épiscopale espagnole a publié un communiqué en réitérant son intérêt et sa disposition à réaliser une enquête sur tous les cas d'abus. Hier, José Luis Restán, directeur éditorial de la Radio Cope, qui appartient à la conférence épiscopale, a pris la parole afin de répondre aux critiques et faire une sorte de mea culpa.
On ne peut pas dire que l'Église a été passive, mais on peut dire de façon douloureuse qu'au sein de l'Église en Espagne, comme dans d'autres églises, il y a des cas d'abus sexuels qui sont une vraie tragédie dont nous avons honte et pour lesquels nous devons demander pardon et faire preuve d'un engagement absolu. L'Église veut faire face, s'agenouiller, demander pardon et voir ce qu'on peut faire avec tous les cas qui apparaissent. Mais nous n'avons pas reçu toutes ces plaintes, ils ont préféré les rassembler, les publier maintenant de façon tapageuse.
Le rapport n'a pas plu à tout le monde. Même si selon le quotidien El País, certains évêques veulent aborder et combattre le problème des violences sexuelles dans l'église espagnole, d'autres préfèrent continuer à le nier. Par ailleurs, la conférence épiscopale critique le manque de rigueur de ce rapport avec beaucoup de plaintes qui ne semblent pas très crédibles à leurs yeux. Des commentaires qui ont bien sûr provoqué l'indignation des victimes, alors que le journal El País rappelle qu'il a mené l'enquête pendant 3 ans. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
7h37, Laurence Thomas, le tour de vis du gouvernement français à quelques jours du nouvel an, concernant la réglementation des mortiers d'artifice.
Ces engins pyrotechniques sont régulièrement détournés de leur usage pour servir d'armes, souvent contre les forces de l'ordre, et ils peuvent occasionner de graves blessures. Un décret vient d'être publié, il oblige les commerces à signaler les ventes suspectes au ministère de l'Intérieur sous peine d'amende. Laurélie Carive.
Un client qui refuse de prouver son identité, qui insiste pour payer en cash, qui achète des quantités inhabituelles de mortiers d'artifice ou qui refuse de préciser ce qu'il compte en faire, dans ce cas, le commerce à 72 heures pour faire remonter l'information au ministère de l'Intérieur. Il a également l'obligation de tenir un registre sur ses ventes des 18 derniers mois à la disposition de la police et de la gendarmerie. Les mortiers d'artifice sont des armes par destination, déclarait Gérald Darmanin il y a un peu plus d'un an. De fait, si elle a longtemps été anecdotique, l'utilisation détournée de ces engins pyrotechniques s'est banalisée ces dernières années, notamment contre les forces de l'ordre. Les images de l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne en octobre 2020 avaient provoqué une grande émotion. Les syndicats de policiers réclamaient un durcissement de la réglementation. Ils l'ont obtenu dans le cadre de la loi Sécurité globale, le texte qui alourdit par ailleurs les sanctions pour ceux qui vendraient les mortiers d'artifice les plus puissants à des non-professionnels. 6 mois de prison et le double si la transaction se fait par Internet.
Laurélie Carive. Une femme est toujours retenue en otage dans le 12e arrondissement de Paris. Hier après-midi, un homme s'est retranché dans une boutique avec 2 otages. Il s'est présenté comme étant un ancien magistrat tunisien. Une des 2 femmes a été relâché peu avant 22h hier soir. L'homme est notamment connu des services de police pour ses antécédents psychiatriques. La piste terroriste est écartée. Les suites de l'alerte enlèvement du week-end dernier. L'homme de 40 ans qui avait enlevé son garçon de 12 ans à Fouquier-les-Lances a été relâché à l'issue de sa garde à vue hier. Placé sous contrôle judiciaire, il sera jugé le 10 janvier par le tribunal correctionnel de Béthune. La justice va poursuivre ce père qui avait multiplié depuis l'été les entorses à son droit de visite. Stéphane Barbereau.
Le père et la mère étaient séparés depuis plusieurs mois et c'est peu dire que cela se passait mal. Ils avaient déposé plainte l'un contre l'autre. Le 28 août, le père tente une première fois de partir avec son fils pour l'emmener aux Émirats Arabes Unis où il vit désormais. Pour cela, il passe par la Belgique, mais les policiers le stoppent à l'aéroport. Une semaine plus tard, il refuse de rendre l'adolescent à sa mère. Il débute alors avec lui un périple de 3 mois à travers la France. Un juge des enfants est saisi et décide de placer l'adolescent chez une assistante maternelle. 3 jours avant le dernier enlèvement, le magistrat annonce au père qu'il ne pourra désormais voir son fils que 2 fois par mois, dans un lieu neutre et sous la surveillance d'un médiateur, ce que cet homme n'a visiblement pas supporté et ne s'en est pas caché. Le jour même de l'enlèvement, il a prévenu l'éducatrice de son fils, la police aussi, affirmant avoir le droit d'emmener son enfant. C'est ce dernier d'ailleurs qui avait appelé son père vendredi, qui était venu le chercher sans violence dans la famille où il était placé à Fouquier-les-Lances. l'écart de trop pour ce père qui risque jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende.
Stéphane Barbereau de France Bleu Nord. Le sport et la saison de ski qui ne fait pas de pause à Noël. Géant d'âme aujourd'hui à Courchevel et slalom pour les hommes demain en Italie. L'occasion de faire le point sur les chances françaises à moins d'un mois et demi des Jeux d'hiver qui auront lieu à Pékin. Et l'on peut dire avec des podiums à l'appel, une moisson de victoire, que le ski français a fait une entrée en fanfare en ce début de saison, mis à part quelques déconvenues individuelles. Jérôme Val a interrogé de jeunes retraités du ski tricolore sur cette bonne santé.
Sur les pistes du ski alpin, sur les circuits de biathlon, sur les bosses ou dans les descentes de ski cross, les Français n'ont pas raté leur début d'hiver. Rien que sur le week-end des 11 et 12 décembre, ils ont réalisé 17 podiums, toutes disciplines confondues, ce week-end encore rebelote en biathlon ou encore en ski cross. De quoi envisager les chances tricolores au prochain jeu en Chine avec confiance, estime le skieur Julien Liseroux à la retraite depuis moins d'un an.
Je suis très très optimiste parce qu'on a une très belle équipe de France dans les résultats. C'est sûr, mais moi je trouve surtout dans l'approche, dans l'état d'esprit, dans le partage, dans la confrontation, dans la remise en question. Et là je parle pas uniquement des athlètes, je parle aussi de toutes les personnes qu'il y a autour.
Un état d'esprit mais aussi une émulation, les performances des uns poussent les autres, veut croire Ophélie David, pionnière dans sa discipline du ski cross.
Un fondeur peut s'inspirer d'un snowboarder et puis du coup je pense qu'on a arrêté de s'auto-censurer. On a arrêté de penser que nous les Français finalement on n'est pas si forts. Et je crois qu'on est vraiment une des grandes nations de la neige.
Et le symbole de la réussite en bleu, blanc, rouge cette saison, c'est le biathlon, encore bien parti pour être la locomotive française au prochain jeu.
Jérôme Val.
Merci Laurence Thomas pour ce journal. À suivre Thomas Legrand.